C'est un métier qui est particulier, qui n'est pas très répandu, en tout cas dans la région. À l'origine, ma formation d'origine, c'est éducatrice spécialisée. Et pour moi, c'est important d'expliquer un petit peu le parcours et comment j'en suis venue à faire une formation en sexologie. En fait, j'ai travaillé pendant très longtemps en foyer d'hébergement avec des adultes en situation de handicap. Et le constat a été que y avait beaucoup, beaucoup de tabous sur la sexualité, l'intimité, les orientations et voilà, tout ce qui était en lien vraiment avec la sexualité et les personnes en situation de handicap. C'était quelque chose qui n'existait pas. Je dis volontairement ça parce que c'était caché, il y avait beaucoup de déni par rapport à ce type de situation. Alors que ce n'était pas le cas, ces personnes avaient aussi une sexualité, aussi des liens affectifs, des relations. La différence étant qu'il n'y avait pas d'information, pas de prévention, aucune visibilité sur leur sexualité. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu à me questionner sur ces besoins. Et j'ai entamé une formation en sexologie vraiment pour essayer d'apporter une réponse, ou en tout cas un accompagnement pour les personnes en situation de handicap et aussi pour les personnes âgées. Parce que c'est vrai que c'est un schéma qui est à peu près le même, surtout pour les personnes en institution, où du coup, on est beaucoup vraiment dans le déni de cette sexualité existante. Et les personnes âgées, comme les personnes en situation de handicap, ont une sexualité. L'idée, c'est d'ouvrir un petit peu les barrières, de se poser des questions un peu différemment et de pouvoir accompagner ces personnes dans leurs besoins, dans leurs désirs, dans leurs questionnements.
Puis tout simplement d'en parler, en fait, parce que ces institutions-là, donc quand on parlait pour les personnes âgées ou pour les personnes... qui sont en IME, je crois, je suis très nul en acronyme.
Alors ça, c'est les ados et enfants.
C'est les ados et enfants, mais bon, pour les ados, ça peut commencer à les concerner, d'ailleurs. Dans ces institutions-là, en fait, ouais, ça n'en parle pas, on parle de tabou, c'est presque systémique, en fait, on veut mettre ça sous le tapis, quoi.
Oui, parce qu'il y a une espèce d'omerta qui fait que, si on en parle, ça va leur donner envie. J'ai souvent entendu ça comme réponse à un accompagnement qui serait soit d'accompagner les équipes un petit peu à déconstruire les représentations sur la sexualité des résidents, soit des groupes de parole avec les résidents eux-mêmes. Et ça s'ouvre un petit peu, mais ça fait des années qu'on essaie un petit peu d'accompagner ces types d'établissements. Mais c'est très compliqué.
Donc en fait, ta formation, tu l'as fait, je crois, en 2017, c'est ça ? Quelque chose comme ça ?
Alors ma formation, je l'ai commencée en 2017, c'est ça. C'est mieux que moi, je crois.
Ouais, j'ai un peu bossé. Et ensuite, donc, direct après cette formation-là, en fait, ça pouvait t'ouvrir à... Parce qu'aujourd'hui, tu as ton cabinet, donc tu proposes des consultations, mais ça pouvait ouvrir à d'autres métiers, peut-être, d'autres spécialités ?
Alors, pas forcément à d'autres métiers, mais c'est pour ça que je trouvais important d'expliquer de quoi je suis partie.
Contexte,
parce que à l'origine, quand j'ai commencé cette formation, j'avais pas du tout l'intention d'ouvrir, de faire des consultations privées. Et d'ouvrir un cabinet. Mais je pensais qu'il y avait tellement de besoins dans les institutions que ça allait exploser. Et pas du tout.
Qu'est-ce qu'elles disent, en fait ? Il n'y a pas besoin ?
Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de ça chez nous. Il n'y a pas d'argent, ce n'est pas une priorité. Il y a toujours quelque chose, en tout cas, qui fait que c'est pas dans les priorités d'accompagnement des personnes.
Ok. Donc... Le cabinet qui s'ouvre, du coup, j'imagine, après tout cela. Comment ça se passe pour... j'allais dire pour se faire connaître. Mais en tout cas, j'imagine que c'est un peu... quand on commence juste, c'est comme beaucoup de médecins, c'est particulier, enfin de médecins ou de praticiens, en tout cas médicaux ou paramédicaux, de pouvoir se faire identifier. Puis surtout, là, il y a quelque chose où on touche à l'intime. Mm-hmm. Donc, il y a une question de lien de confiance qui se met en place et tout. Comment ça s'est passé ?
Du coup, je me suis installée en tant que sexothérapeute et thérapeute de couple. J'ai eu tout de suite beaucoup plus de demandes en thérapie de couple qu'en sexothérapie. Et en effet, c'est tout à fait là la difficulté, c'est que c'est pas facile de faire cette démarche. Et que déjà, le premier pas, la première approche vers un accompagnement fait déjà partie de la thérapie, mais il peut prendre du temps. J'ai souvent des gens qui prennent rendez-vous, qui ne viennent pas, qui rappellent 6 mois plus tard. Bah, voilà, c'est déjà une démarche qui est difficile, parce qu'en effet, ça touche à l'intime.
On se rapproche un peu de la psychothérapie aussi. Mmh. Il y a des comportements comme ça aussi.
Tout à fait. Où,
en fait, il faut que les deux, que ce soit le praticien ou le patient, jouent le jeu, quoi.
Tout à fait. Et finalement, ça se régule à un moment par rapport au bouche à oreille. C'est-à-dire que je pense qu'à force de, voilà, d'avoir du monde, que les gens en parlent entre eux, les gens prennent un peu plus, font un peu plus cette démarche, un peu plus facilement, un peu plus en confiance sûrement.
Ok, alors, sexologue, sexothérapeute, déjà c'est quoi la différence?
À ton avis?
Je pose des questions, donc si je réponds, ce sera un peu moins fun, tu vois. Donc,
non, le sexologue a une formation médicale. Donc,
on peut comparer ça à psychologue et psychiatre en fait?
Un peu, oui,
ouais,
tout okay. à fait. Pas sur les mêmes choses, mais en effet, c'est un peu ça. C'est que le sexologue a une formation médicale et il va traiter des maladies sexuelles, des troubles sexuels, mais physiologiques. Alors que le sexothérapeute va, essayer de traiter de manière plus psychologique, en tout cas, les troubles de la sexualité.
Et t'as fait la distinction, pardon, entre la sexologie, enfin sexologue, pardon, et sexothérapeute, excuse-moi, je vais y arriver, et la thérapie de couple. T'as volontairement dissocié les deux, c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent être thérapeutes de couple et pas sexothérapeutes.
Tout à fait.
Ah ouais, d'accord. Et alors, comment tu peux nous expliquer ça?
Alors, la sexothérapie, c'est souvent une thérapie individuelle qui traite des troubles liés à la sexualité. Donc, si je prends des exemples, ça peut être du vaginisme, des troubles de l'érection. Faut que j'explique vaginisme?
Ouais, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas au courant, en effet.
Le vaginisme, c'est un blocage qui se passe au niveau de l'entrée du vagin au moment de toute pénétration et qui se fait de manière plutôt inconsciente. Et c'est un blocage psychologique qu'il va falloir aller traiter un petit peu plus en profondeur. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ils sont tellement faciles, ceux-là.
On a fait un petit bingo, il faut qu'on cale un maximum de vannes et de jeux de mots pourris, donc c'est cool.
Contrairement à Alors, il y a des couples qui viennent en consultation de sexothérapie, mais en principe, c'est plutôt individuel. Et la thérapie de couple peut traiter de la sexualité, mais souvent, les problèmes, les défaillances ou les problèmes de sexualité sont souvent une conséquence d'un problème du couple. Donc là, on va aller travailler plutôt sur la communication, sur la relation du couple.
Alors, on va y revenir un peu plus en détail un peu après, sur justement la thérapie de couple, comment ça se passe, est-ce que ça se ressemble pour tous, est-ce qu'il y a des différences et tout, on va en discuter juste après. Mais juste avant, on va un peu reposer les bases, parce que c'est vrai que ça fait finalement... seulement quelques années, en fait, où la parole se libère un peu plus, notamment grâce aux réseaux sociaux qui permettent une plus grosse diffusion et surtout de ne pas passer par des canaux plus traditionnels où c'était un gros tabou, la sexualité. Y a forcément aussi une question générationnelle aussi, où peut-être que des générations plus récentes ont moins subi des construction, des préconstructions de stéréotypes de genre, de sexualité ou autre. Est-ce qu'on peut reparler un petit peu des bases sur plusieurs mots-clés? Alors j'allais dire en vrac, on va les traiter comme tu veux. Il okay. Y a donc les questions d'orientation sexuelle, l'identité de genre, c'est déjà juste ça.
c'est déjà pas mal.
On peut faire un petit topo parce que même moi, tu vois, en faisant un peu de recherche, je me suis rendu compte que surtout c'était très satellite, c'est-à-dire qu'une identité de genre et une orientation, une sexualité peuvent être en fait une fusion en fait, et qu'il n'y a pas qu'une partie. Je ne sais pas si c'est très clair comment
pas
je
du
le
tout.
Dis. C'est pas du tout clair, ouais.
Je vous confirme. Vous en pensez, ouais. Oui.
Mais qu'en gros, il y a entre par exemple l'orientation sexuelle, l'identité de genre, ça peut être parfois interconnecté, des fois pas du tout.
Tout à fait. Ça, oui, c'est vrai.
Voilà, est-ce qu'on peut faire déjà un petit topo sur ça? Grand défi, grande question. Allez, à ton tour.
Je vais prendre mes notes, parce que je voudrais pas... ça me rassure peut-être un peu aussi. Mais je trouve ça intéressant de revenir sur ce que tu disais par rapport à la construction et par rapport à quelque chose qui est aussi générationnel et sociétal. et culturel, enfin tout quoi. Et
beaucoup trop de paramètres.
C'est ça. Donc déjà avec tout ça, ça complique déjà les choses. Alors qu'on pourrait être juste sur l'envie et le désir de chacun d'être ce qu'il est. Mais ça, c'est un petit peu plus compliqué.
C'est censé être la base en tout cas.
C'est ça. On essaie d'y arriver en tout cas. Et on en parlait tout à l'heure et je trouvais ça intéressant justement de parler un peu en termes de génération, de la construction de la sexualité en général et de l'éducation autour de la sexualité. Je pense qu'on a à peu près le même âge. Et en effet, c'est une construction qui est très hétéronormée, où la norme est l'hétérosexualité, donc un homme, une femme, et qu'il n'y a pas tellement autre chose. Ça veut dire que tout le reste est considéré comme hors norme. Donc déjà, partant de là, ça complique un petit peu les choses.
Ouais, c'est ça la problématique de base, c'est le fait d'être tout de suite casé dans la normalité, en fait. Qu'est-ce qui est normal, en fait
Ah, mais... ce terme, je le déteste.
Ouais, c'est simple.
Dès qu'on parle de normalité, déjà, il y a quelque chose à déconstruire. Enfin, il y a pas de normes. Il y a des lois, il y a des repères, il y a des références, mais il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que, et encore moins en termes de sexualité et d'orientation et d'envie. Il y a ce que l'on est et ce dont on a envie. Et ce dont on a envie de l'autre aussi. Enfin, voilà, dans le consentement, on en parlera aussi. Mais il n'y a pas de normes ou de normalité. Mais partir de ce constat, du coup, où toute la société est hétéronormée, ça veut dire que c'est ce qui est visible dans les livres, dans les médias, dans le cinéma.
Dans les jouets.
Dans les jouets. Voilà, on va en plus dans le stéréotype de genre. Enfin, voilà, mais toute cette construction-là, elle est très difficile à déconstruire parce qu'elle est ancrée depuis tellement longtemps. Enfin voilà, notre société c'est une base judéo-chrétienne où la norme c'est Adam et Ève et il n'y a pas tellement d'autres possibilités alors qu'il y en a tellement d'autres.
Et comment ça se fait voilà, justement qu'enfin ça se libère un peu plus? Alors on a parlé un petit peu de la génération, des générations ultérieures à la nôtre qui sommes dans les 80-90 on a parlé des réseaux sociaux qui est un vecteur, un diffuseur, mais il y a quand même du militantisme, en tout cas des engagements qui ont été pris. Comment toi t'as vu ça en fait de ton point de vue?
Dans ma longue expérience de vie, très âgé. Non, en effet, on peut critiquer les médias, mais il y a une visibilité qui est plus qui se fait, une visibilité par rapport à tout. Où, dès qu'on peut aller chercher, on peut maintenant aller chercher des informations qui sont pas forcément erronées. Et les gens prennent aussi ça en militantisme et les gens ont envie d'être vus et d'être compris. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Il y a aussi la suite à plein de manifestations ou de changements de regard par rapport à la femme, par rapport à la sexualité, plein de déconstructions qui se font petit à petit et qui permettent cette ouverture-là.
Et alors, l'orientation sexuelle, de manière générale, je dirais pas que c'est quelque chose qui est encore acquis par tout le monde, mais en tout cas, ça fait maintenant des années qu'on commence à un peu comprendre ça au niveau du grand public. Mais il y a l'identité de genre, où ça reste encore assez nébuleux pour certaines personnes. C'est en fait déjà si on peut définir l'identité de genre, je te laisse un petit peu de temps pour trouver cela dans tes petites fiches, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes, je pense plus à une génération plus antérieure qui a vécu dans une société, comme tu le disais, hétéronormée, en fait, qui n'arrive pas à comprendre en fait ce que c'est en fait, et peut-être revenir un peu à la base de ça, de l'identité de genre, c'est quoi?
Mais il y a les personnes qui n'arrivent pas à comprendre, et il y a les personnes qui ont vécu dans cette société-là aussi, en étant un peu à part, parce qu'ils n'ont jamais pu ni s'accepter ni se faire accepter, parce que c'était pas acceptable pour le coup, c'était pas autorisable, c'était pas d'accord quoi. L'identité de genre, le genre c'est une construction sociale, donc c'est l'identité féminine ou masculine, donc c'est ce qu'on disait, c'est plutôt quelque chose de binaire. C'est là où tous les termes qui arrivent après vont avoir une vraie
résonance.
Merci.
T'as quel cheveu souffleur aussi à mi-temps, n'hésite pas.
L'identité de genre et la conviction intime et personnelle de sentir homme, femme, ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois. Donc c'est là qu'on va pouvoir se déterminer comme étant une personne et un individu, plutôt que homme ou femme. C'est un sentiment profond et fort qui ne se contrôle pas et qui ne se choisit pas. Parfois, ce sentiment est en accord avec le genre donné à la naissance, et parfois, il ne l'est pas. Et c'est là que ça vient questionner dans le quotidien, un petit peu comment s'accepter et se faire accepter dans sa propre identité.
Et pourtant, on pense à plein de choses au niveau administratif, truc tout bête, mais la carte d'identité, par exemple, 100% binaire, quoi.
Ah, en France, 100% binaire, mais c'est en train de changer.
Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu as pu constater, du coup, de alors, choses qui peuvent évoluer?
Il parle d'évolution d'enlever le petit...
Féminin ou masculin.
Oui, voilà. Ouais. Mâle ou femelle.
Très biologique, comme analyse.
Il y a plus de facilité aussi maintenant, en tout cas, de possibilité de changer son nom en état civil. Donc il y a quand même des évolutions au quotidien.
Et juste avant de revenir sur la partie donc thérapie de couple, on va en parler un peu plus en détail. C'est une question très subjective. Comment tu vois les choses? On parlait d'évolution, que ça allait quand même vite, mais que c'est un sujet, un sujet, je dis ça comme ça, mais qui polarise encore beaucoup la société. En fait, on se rend compte que juste parce qu'on veut reconnaître quelqu'un pour ce qu'il est, ça peut en poser problème pour d'autres. C'est quelque chose qu'on a vu aussi sur la reconnaissance sur l'homosexualité. Hein. Là, on en parle aujourd'hui comme si c'était acquis et totalement normal. Mm-hmm. Bon, il y a plutôt 30 ans, c'était pas la même chose. Comment toi,
Et c'est pas encore complètement...
Et c'est pas encore, c'est pas encore. Mais quand je dis il y a 30 ans, c'était dans le sens où, dans le cadre de la loi, ce n'était pas illégal.
Et de la psychiatrie.
Ce qui paraît un peu aberrant aujourd'hui. Comment toi tu ressens ça, cette évolution? Est-ce que tu trouves que ça va assez vite, pas assez vite? C'est vraiment une question de psychologie de comptoir, hein, pur et dur.
quand les choses sont légitimes, ça va jamais assez vite. Parce qu'il y a encore trop de tabous, il y a encore trop de... Alors je vais pas dire d'esprit étriqué, mais si je l'ai dit.
Si, tu peux le dire.
Non, voilà, ça reste vraiment compliqué pour une majorité de personnes. D'accéder à cette ouverture et de la légitimer.
N'hésitez pas, d'ailleurs, comme je le disais en introduction, si vous avez quelques questions, vous levez la main. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de souci. Je reviens sur le côté donc thérapie de couple pour savoir un petit peu comment ça se passe, quel est le quotidien de ça, est-ce que tout se ressemble et tout. Déjà, est-ce qu'il y a une base commune, en fait, quand tu commences...
C'est que tu veux un rendez-vous, ça?
Alors là, il y a un peu de monde, donc je suis un peu gêné. J'imagine que c'est quelque chose qui se fait de manière plutôt close. Mais on en discutera en off juste après, avec grand plaisir. Pour commencer, c'était de savoir, t'en as un peu parlé en filigrane dans l'introduction, en quoi ça consistait, ou quelle était en tout cas la mission. Je ne sais pas si c'est le bon terme, ou en tout cas la... Non, c'est pas le bon terme du tout.
Non.
C'est comment je peux
dire. Mais j'en trouve pas d'autres là.
Ouais, bon, on en trouvera peut-être.
L'accompagnement, la prise en charge.
Ouais, l'accompagnement, on va dire ça carrément. Est-ce que déjà. Qu'est-ce que tu dis en fait au couple qui arrive au tout début en fait? Parce que on va le comprendre après, j'imagine que chaque consultation est différente selon les personnes. Mais est-ce qu'il y a une phrase d'accroche, un premier truc, un premier diagnostic?
Genre une petite blague comme tu as fait en entrée?
Ah, la blague, sur la revoté, on va pas la refaire.
Donc non, j'attends un peu pour faire des blagues. Non, il n'y a pas de phrase d'accroche. L'idée d'une première rencontre déjà avec un couple, c'est plutôt de les rassurer sur le fonctionnement, sur le cadre, sur le non-jugement. Ça, c'est déjà important. Qu'ils se sentent libres de partager ce qu'ils ont besoin de partager et de déposer là où ils sont. L'idée aussi, c'est de leur préciser très rapidement que je n'ai pas de solution toute faite, parce qu'il y a souvent aussi des personnes qui sont tellement mal, qui sont vraiment en difficulté et qui cherchent, et souvent c'est le dernier recours et qui cherchent une solution un peu toute prête pour arranger les choses. Donc voilà, on essaie tout de suite de déconstruire ça pour voilà, leur dire que c'est aussi ce qu'ils amènent eux et comment on va travailler en échangeant pour qu'eux trouvent leur propre chemin.
Et donc tu disais, c'est souvent, enfin pour beaucoup en tout cas, c'est la solution de dernier recours, comme tu as dit. Quand ils viennent, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils peuvent te dire en fait ?
Alors quand les couples viennent, souvent ils sont, c'est le dernier recours, donc c'est avant une séparation, avant quelque chose qui est de l'ordre de la rupture. Mais la thérapie de couple, c'est pas l'idée de trouver absolument quelque chose qui va réunir le couple, quelque chose qui va redonner au couple une nouvelle vie. C'est parfois aussi d'accompagner dans cette séparation. Et c'est de pouvoir aussi se dire les choses, de pouvoir le faire un peu plus sereinement, si, tant que possible. Mais voilà, l'idée aussi, c'est qu'il faut un peu déconstruire aussi, c'est de ne pas se dire que ça va forcément... quand je dis arranger, c'est arranger aussi, ça peut être une séparation. Mais que l'idée, ce sera de trouver le meilleur chemin possible pour chacun.
Et qui dit thérapie de couple dit qu'il faut que les deux soient d'accord. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, que l'un des deux conjoints vienne te voir pour demander une thérapie de couple, mais que l'autre ne veuille pas et tout ? Est-ce que toi, tu as un rôle, du coup, pour accompagner l'autre, pour lui donner envie de venir et de participer ? Ou vraiment, là, c'est, tu dépasses le cadre de ce que tu fais ?
Non, moi, je ne peux pas aller à la recherche de l'autre. Ça peut être que quelque chose de consenti, là aussi. Ce qui se passe, de mon expérience, ce qui s'est passé à plusieurs reprises, c'est souvent l'un des deux a envie de faire cette démarche à un moment donné de leur vie de couple. L'autre est dans le refus. Et finalement, au bout d'un certain temps, c'est l'autre qui prend l'initiative quand il sent peut-être que c'est un peu... ça se sent pas bon. Et prend l'initiative de demander de l'aide et un accompagnement.